Radio Okapi.
Le journal François Kadima.
Okapi.
Mesdames, messieurs, voici les titres qui font la une d'accueillir ce soir sur Radio Capi. Les autochtones étaient à l'honneur ce jeudi à travers le monde. En RDC, cette journée dédiée à ce peuple a été célébrée ici à Kinshasa et à Bukavu. Nous ferons le point dans quelques instants. Il a décidé de quitter les rangs des FARDC et rejoindre le groupe rebelle SRB des Kobamatata. Cet officier qui a fait défection en Ituri avec plusieurs autres militaires et les commandants bataillon de 91e régiment basé à Marabo. Il faut des moyens pour bien mener la lutte contre le sida en RDC. Médecins sans frontières Belgique et des experts l'ont déclaré après avoir fait un état des lieux de la question au pays. Le peuple pygmé du Sud Kivu a commémoré ce jeudi la journée internationale des peuples autochtones à Kavumu, dans les territoires de Kabaré. Plus de 200 personnes réunies au couvent des sœurs de congrégation évangélique de Kavumu ont adressé un mémorandum aux autorités de la RDC. Les peuples autochtones demandent au gouvernement de leur reconnaître les droits à la possession des terres et l'égalité à l'instar d'autres citoyens du pays. Jean Kassami assistait à cette cérémonie.
Notre vie est devenue précaire depuis que l'État congolais nous a dépossédés de nos terres au profit du parc national de Kahuzi-Biega. Ce sont les termes de détresse lancés par plus de 200 pygmées regroupés pour la circonstance. Les autochtones ont déploré l'absence d'autres groupes communautaires et celle des autorités à leurs manifestations, ce qui selon eux prouve la discrimination dont ils sont victimes. Eric Bagalois, membre de la communauté autochtone du Sud Kivu, formule des recommandations.
Aux députés nationaux de venir passer dans notre village pour prendre nos doléances parce que nous sommes délaissés par l'État congolais. Il faut montrer au président de la République que le pygmé, il est congolais comme les autres congolais.
L'ONG RND Institute, qui accompagne les peuples autochtones, a organisé une série d'activités à l'occasion de cette journée. Le secrétaire exécutif de cette structure, Jean-Jacques Kadesirwe, raconte ce qu'ils font en faveur des peuples autochtones.
Nous avons des actions concrètes qui ne se font pas simplement ici au Sud Kivu. Actuellement, nous avons un procès contre le gouvernement congolais par le truchement de son institution PNKB-ISSN.
La plupart des pygmées du Sud Kivu sont analphabètes et nécessitent un accompagnement du gouvernement. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
À propos justement de cette journée des peuples autochtones, elle a été initiée par les Nations Unies depuis 1994, mais célébrée pour la première fois en RDC en 2010. Thème choisi pour cette année, le médias autochtones élevant la voix de la femme autochtone pygmée pour son accès à l'information et aux services de santé maternelle. Cette revendication des peuples autochtones est soutenue par Madame Marie-Dorothée Lissenga, membre du réseau des peuples autochtones pour la gestion des écosystèmes forestiers en RDC. Ses propos sont recueillis ici par Nadine Foulantimba.
Nous revendiquons les droits spécifiques de la femme autochtone sur tous les plans et surtout sur le plan de la santé et de la reproduction. Oui, l'information, la sensibilisation pourrait changer maintenant la situation de la femme autochtone et surtout l'instruction et l'éducation. Particulièrement, si je peux citer les centres, on peut installer les centres de soins de santé dans les milieux autochtones, les écoles. Quand bien même il n'y a pas d'école, là, les écoles qui sont environnantes et que les enfants autochtones aussi puissent avoir accès libre, sans être marginalisés par les autres enfants bantous, nilotiques ou quoi.
Encore une nouvelle défection au sein des FARDC à l'Ituri. Le commandant bataillon des FARDC basé à Marabo, une localité située à 40 km au sud de Bounia, rejoint dans la nuit de mardi à mercredi la milice FRPI des Cobra Matata. Cet officier s'est rendu avec tout l'arsenal militaire à sa disposition. Notons que c'est la deuxième défection enregistrée au sein des FARDC en 2 mois seulement dans l'Ituri. Michel Kifinangoy.
Il s'agit de Major Taï Kondo, commandant bataillon du 91e régiment basé à Marabo. Selon le colonel Eleko Kila, porte-parole des forces de résistance patriotique de l'Ituri FRPI, cet officier s'est rendu ensemble avec son commandant second. La même source indique que le Major Taï Kondo a fait défection avec un grand nombre d'éléments sous son commandement, mais aussi avec des armes lourdes et munitions. Ces informations sont confirmées par des sources locales à Marabo. Des sources militaire confirme également cette information. Selon le colonel Fall Sikaboué, commandant phare d'essai en Ituri, cet officier a refusé d'aller dans son nouveau poste d'affectation, c'est-à-dire le Nord Kivu. La même source indique que les éléments phare d'essai sont déjà à sa poursuite.
Michel Kifinangoï, à propos de l'information, les Renadoc réclament la réouverture du procès de Pascal Kabongulu, ancien secrétaire exécutif de l'ONG héritier de la justice, assassiné le 31 juillet 2005 à Bukavu, Sud-Kivu. Information diffusée par Radio Kapi lundi dernier. La haute cour militaire apporte son correctif dans cette diffusion. Renadoc affirmait que ce procès avait été renvoyé devant la haute cour militaire pour incompétence des deux premiers tribunaux chargés de l'examiner à Bukavu, toujours dans d'après cet ONGDH. Le procès Kabongulu piétine à cause du dysfonctionnement de la haute cour militaire et de la Cour suprême de justice. Or, selon le directeur de cabinet adjoint du premier président de la haute cour, c'est depuis le 7 octobre 2008 que le dossier Pascal Kabongulu a été transféré à l'office du procureur général de la République, qui fait de l'implication dans la cause du Dedes Kaningini Kyoto, alors vice-gouverneur de la province Sud Kivu, justiciable de la Cour suprême des justices. Les travaux sur la révision du code minier en RDC se sont clôturés ce jeudi à l'hôtel Sultani de Kinshasa pendant 3 jours. Les acteurs de la société civile intervenant dans les secteurs venus de toutes les provinces de la RDC ont passé au peigne fin le 4 thèmes de l'actuel code minier. L'objectif étant d'harmoniser les vues afin d'apporter des amendements comme contribution de la société civile dans les processus de la révision du code minier. Un communiqué final a sanctionné cet atelier avec plusieurs recommandations formulées par les participants. Ces recommandations seront écoulées dans un document à transmettre au gouvernement ainsi qu'aux deux chambres du Parlement. Jacques-Yves Moulima nous en parle.
Les travaux se sont déroulés autour des 4 thèmes du code minier actuel, à savoir vision et responsabilité sociale des entreprises, droit, fiscalité et environnement. De chaque thème a découlé des recommandations et de toute une vision émerge sur l'exploitation des ressources minières, comme le souligne le père Ferdinand Mouigiroua, directeur du CEPAS et membre du comité de pilotage.
Nous voulons vraiment un code minier incitatif, attractif, des investissements. Nous souhaitons que ce code minier puisse associer la participation effective des communautés locales dans la gestion des ressources naturelles. C'est que vraiment l'État congolais exerce sa souveraineté sur l'exploitation des ressources naturelles et ici des ressources minières.
Du côté des participants, l'on prête foi aux résultats de ces travaux et l'on espère la concrétisation sur terrain afin que les peuples autochtones se retrouvent. Jacqueline Faïda Chiroy de la Ligue nationale des associations autochtones pygmées du Congo reste vigilante.
Issue d'entendre la mise en application peut-être sur les terrains, on va suivre à la loupe pour que nous nous retrouvions.
Notons du reste que le résultat de cet atelier fera l'objet d'un suivi tout au long du processus législatif jusqu'à l'adoption du code minier amendé.
Parlons de la lutte contre le sida en RDC. Le pays a fait un état des lieux de la question cette semaine. Il a été conclu qu'il faut plus de moyens financiers, mais aussi de nouvelles attitudes de prise en charge pour bien mener la lutte. Ces recommandations sont parmi tant d'autres que Médecins sans frontières Belgique et les experts congolais en matière de lutte contre le sida ont formulé. C'était à l'issue d'une séance conjointe de travail qui les a rassemblés mardi et mercredi dernier à Kinshasa au sujet de la situation du sida en RDC. Une situation préoccupante que même les gouvernements ne veulent absolument pas laisser pourrir, comme nous le rapporte ici Dona Madimba.
Le ministre de la Santé a été droit au but. Félix Kabange Numbi indique que la RDC va bel et bien participer au financement de la lutte contre le sida au pays, et même s'il n'a pas donné de chiffres, il explique toutefois que cet engagement est même déjà en ce moment en cours d'exécution.
Cette année, déjà dans le budget 2012, on a mis le cofinancement. Nous avons fait la réunion tripartite, ministère du budget, ministère des finances et ministère de la santé, pour qu'on commence à payer.
Des efforts que l'ONG Médecins sans frontières, un des partenaires de la RDC dans sa lutte contre le sida, applaudit, mais son responsable programme médical en RDC interpelle en même temps la solidarité financière internationale. Anya Verheller.
Pour pouvoir répondre à une épidémie et la grandeur de l'épidémie en RDC, il nous faut une solidarité internationale.
Pour ce qui est de la situation sur terrain, notez que la RDC dénombre à l'heure actuelle sur son territoire environ 1,5 million de personnes vivant avec le VIH. Le tiers seulement est officiellement éligible aux antirétroviraux, alors que 50 000 seulement, soit 12% de ces personnes, reçoivent réellement ces médicaments. Retenez enfin que sur le nombre total des femmes congolaises PVV enceintes, 1% seulement sont suivies pour éviter la contamination de la mère à l'enfant.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Okapi.